Sur la cinquième corde, chapitre 7 de notre rendez-vous mensuel. Simon Martin aux manettes et moi-même Robert Giroux, votre hôte. Et mon bonjour à toutes celles et ceux qui nous font la grâce de nous suivre. Dans le déroulé du temps, nous venions de laisser les années 70 du siècle précédent. Le bluegrass reste très implanté dans son enclave native, Kentucky, Virginie, les monts Appalaches. Cette musique en est devenue un emblème, une source commune, un point de ralliement. Le patrimoine appalachien en reste le matériau primaire. Il a déterminé la forme du chant et le contenu poétique de la parole. Le bluegrass est un adulte encore jeune et plein de promesses. Des formations néoclassiques, néoclassiques en ce qu'elles sont fidèles aux principes premiers et que leur évolution ne vient que du fait d'un changement naturel, changement d'un musicien, donc nouvelle voix, et non d'un effort conscient et dédié à la nouveauté. Ces formations donc affirment leur esthétique et leur choix d'interprétation. De grands musiciens s'y révèlent qui sauront ne pas figer cet art dans le temps sans pour autant le dévaloriser pour plaire. Cette période marquera également les débuts d'un phénomène récurrent depuis, d'attraction périodique pour cette musique, une sorte de mode si on veut. Dans les temps de stagnation artistique, d'incertitude politique, sous la charge d'une espèce de poussée rousseauiste, de retour vers l'originel, le bluegrass et en général les musiques premières américaines, comme le blues par exemple, seront mises à contribution, évoquées lointainement, schématiquement, pour fournir une sorte d'alibi culturel, se réclamer d'un supposé retour au vrai. Le cinéma sera pour l'essentiel l'outil de ce principe. Si John Ford et d'autres avaient su dresser de superbes fresques ou portraits de la ruralité américaine, qu'on se souvienne par exemple de Gary Cooper dans La Loi du Seigneur, du personnage de Gregory Peck dans The Yearling, en français Jody et le Fan, un beau film de Clarence Brown, ou l'inoubliable Henry Fonda des Raisins de la Colère pour ne citer que cela, il faut bien constater qu'après eux, le rural se mura en primate, en un monolithe vociférant, dont la personnalité n'est plus que réactive et dont le seul langage est la brutalité. Même si, ici ou là, des signaux épars permettent de ne pas désespérer totalement. Un film comme « Les moissons du cœur » de Terrence Malick, par exemple. Le cinéma utilisera donc plus fréquemment le bluegrass pour ses bandes-sons, depuis le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn jusqu'aux frères Cohen, en passant par John Borman. Certains de ces films aideront même cette musique à se trouver de nouveaux adeptes. Il faut donc leur en être reconnaissant. Cependant, je n'en dirai pas davantage sur le sujet. Par choix personnel, tout comme j'ai délibérément ignoré le succès discographique ou individuel. Je n'ai rien contre le succès, qu'il advienne à qui le recherche. Nous nous entretenons ici de musique seulement. Citons tout de même « Harland Country, USA » de Barbara Kopple, documentaire brut et bouleversant, encore aujourd'hui, du Matthew Wan de John Sayles, et plus près de nous d'un film comme Songcatcher, beau film de Magri Greenwald, qui retrace l'épopée du collectage dans les Appalaches, dont je vous parlais le mois dernier, du personnage de Cecil Sharp, qui se trouve portraituré dans ce film sous les traits d'un certain professeur Cyrus Whittle. C'est un très bon film que je vous conseille, mais qui est très dur à voir. Il n'a jamais été distribué en France, malheureusement. À travers tous ces mouvements de flux et reflux de popularité, le bluegrass s'aventure bel et bien hors de ses bases pour la première fois. Mouvement renforcé par le fait que de plus en plus de ses musiciens sont de jeunes citadins, produits de l'université américaine souvent, ouverts au monde extérieur, y compris sur le plan musical. Une formation me paraît illustrer pertinemment cette nouvelle frontière, comme on disait à l'époque. The New Grass Revival. Ce groupe d'emblée déconstruira quelque peu le schéma traditionnel de la chanson et de l'instrumental bluegrass. Les voix, par exemple, solistes ou d'harmonie, ne seront plus spécifiquement bluegrass, et quelquefois plus du tout. Beaucoup d'éléments les rapprochant plutôt des groupes rock californiens de l'époque. Leur musique, si elle a encore les bases rurales, s'adresse bel et bien au public de son temps. Et on doit ici leur reconnaître l'immense talent d'avoir su rendre le bluegrass lisible par tous sans jamais l'avoir disgracié. Instrumentalement, le groupe développera de véritables mouvements orchestraux, approfondira considérablement l'instant du chorus, là où on se contentait d'énoncer, brillamment certes, mais souvent au plus laconique. Les morceaux s'allongeront parfois jusqu'au quart d'heure, et ce, sans lasser jamais. Les quatre musiciens de cette unité très particulière sont à saluer collectivement. D'individualités très brillantes qu'ils étaient, ils ont su créer un groupe mémorable. Chapeau bas donc à Sam Bush, mandoline et voix, John Cowan, basse électrique, voix, Curtis Birch, puis Pat Flynn à la guitare et aux voix, Courtney Johnson, qui était une véritable perle de banjoiste, qui a été remplacée dans les années 80 par Bella Fleck, jeune banjoiste remarquable, qu'on présentait souvent en scène en disant « Bella Fleck, le seul musicien bluegrass qui sache lire et écrire la musique ». Écoutons donc The Newgrass Revival dans Metric Lips.
Thank you.
Des groupes plus progressistes de cette période, on peut citer Country Cooking du banjoiste Tony Trischka et Skyline, son groupe suivant. Cependant, les choses vont se précipiter avec David Grisman, musicien bluegrass par excellence, mais aussi esthète et citoyen du monde. Il fondera une unité d'anthologie, The David Grisman Quintet, réunissant Darrell Anger au fiddle, Mike Marshall mandoline fiddle, Rob Wasserman à la contrebasse et surtout Tony Rice à la guitare. Mais assez parlé, musique, David Grisman Quintet, Dog's Bull. Le groupe évoluera par la suite, les musiciens allant et venant. Des instruments comme la flûte ou les percussions y feront leur entrée. Grisman s'affirmera un grand compositeur, chef d'orchestre et précieux découvreur de talent. il créera et dirigera un label discographique très ambitieux, Acoustic Records, défendant aussi bien le jazz, la mandoline italienne, les annales du bluegrass et la guitare sud-américaine, et sa propre musique également. Tony Rice, le guitariste du quintet, mériterait bien plus que ce simple paragraphe pour qu'il lui soit rendu justice. À la suite de son initiateur et ami Clarence White, je vous explique brièvement qui est Clarence White. Il s'appelait Clarence Joseph Leblanc. Il est d'ascendance canadienne francophone. Son nom a été transformé en White par les services d'immigration US. Son père, Eric Leblanc Senior, jouait déjà du fiddle et du banjo. Clarence joue dès l'âge de 6 ans. À 10 ans, il fonde son premier groupe, les Three Little Boys, avec ses frères. Il créera The Kentucky Colonels, qui sera son grand œuvre bluegrass. Le groupe est devenu une référence, une pierre angulaire du bluegrass moderne. À la fin du groupe, il rejoindra The Byrds, groupe de folk rock immensément renommé, au sein duquel il se montrera perpétuellement inventif et original. Il jouera toujours du bluegrass en parallèle. C'est au sortir d'un concert bluegrass dans un petit club à l'entrée du désert californien qu'un chauffard et ivre de surcroît mettra brutalement et tristement fin à la vie de Clarence White. Tony Rice aura été son seul et unique élève depuis l'âge de 9 ans. Un lien d'amitié et de respect immense les unira toujours. À la mort de White, Tony Rice rachètera sa guitare et ne jouera plus qu'avec elle. De Clarence White, il a appris la clarté des locutions, la précision de la phrase et une propension certaine à anticiper sur le cours des choses. Le plus intéressant de tout ceci étant que Tony Rice n'est jamais devenu un clone de Clarence White. Tout dans son jeu, sa sonorité, ses choix harmoniques ou mélodiques, ses incursions vers d'autres rivages, son énoncé et jusqu'à sa conception de l'accord sera éminemment personnel et différent autant qu'il se peut de ce qu'était son mentor. Donc à sa suite, il va procéder à une réelle refonte de la guitare bluegrass. Il saura trouver et ouvrir des voies de passage inhabituelles, vers le jazz notamment, dont il est éminemment amoureux, de John Coltrane surtout, et peut-être plus encore de McCoy Tyner, son pianiste. Sa guitare n'est jamais exclusivement rythmique ou soliste, mais navigue librement de l'un vers l'autre rôle, avec un à-propos et une cohérence constante. Il introduira dans son jeu des dissonances très contemporaines, développera tout un art de se faufiler dans le tissu rythmique ou mélodique et d'aller y cueillir l'imprévu. Par la position de sa note sur la mesure, il interviendra sur le rythme même, pour pouvoir y évoluer autrement que lié à une structure trop rigide. Il sera opérant sur l'attaque de la note, qui était jusqu'ici uniformément sèche, courte, vive et tranchante, rajoutant à tout cela beaucoup de lyrisme et de nuances. Il préférera souvent faire parler un accord éloquent pour ouvrir une phrase musicale à plus de sens, plutôt que de la forcer par des notes en avalanche. Malgré le côté impressionnant de son jeu, ça va quelquefois très vite, il y règne une certaine réserve. La note y prend toujours le temps de la profondeur. Écoutons Tony Rice dans une de ses belles compositions, Manzanita. Thank you. Pour vous faire connaître son chant, je vous propose sa version de House Carpenter, antique chanson traditionnelle écossaise, dans laquelle un homme, le diable probablement, retrouve une femme des années après l'avoir aimée. Elle s'est mariée entre-temps à un charpentier et a de lui deux enfants. Il la courtise, cependant lui demande de le suivre, lui promet des bateaux chargés d'or. Ils embarquent, prennent la mer. Bientôt elle est prise de remords d'avoir quitté son mari, ses enfants. Puis elle aperçoit au large une côte, une montagne. Son amant lui dit que c'est là le paradis, mais que le paradis n'est pas leur destination. Il lui désigne un rivage plus loin, plus sombre, inquiétant. Ce sont les enfers, et là est leur destination. Puis de ses mains, il brise en deux le navire. Ils se noient tous les deux. Tony Rice est seul ici, guitare et voix. Un moderne sans le moindre doute, mais aussi un classique né. Tony Rice, House Carpenter.
Well met, said an old true love. Well met, said he. I'm just returning from the salt, salt sea, and it's all for the love of thee. Come in, my old true love, and have a sit by me. It's been three-fourths of a long, long year since together we have been. I can't come in and I can't sit down, for I'm only a moment's time. They say you're married to a house carpenter and your heart will never be mine. Well, I could have married the king's daughter fair, and she would have married me. But I have forsaken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. Now will you forsaken your house carpenter and go along with me? I'll take you to where the grass grows green on the banks of the deep blue sea. Then she picked up her darling little babe, and kisses she gave it three, saying, stay right here, my darling little babe, and keep your papa company. They had not been on the ship 2 weeks, I'm sure it was not three, till his true love began to weep and to mourn, and she wept most bitter. Saying, are you weeping for my silver and my gold? Saying, are you weeping for my store? Or are you weeping for that house carpenter whose face you'll never see no more? A curse to the sailor, she cried. A curse, she swore. You've robbed me of my sweet little babe that I shall never see no more. They had not been on the ship 3 weeks, I'm sure it was not four, till there came a leak in the the bottom of the ship, and it sank 'em for to rise no more.
Rendez-vous le mois prochain pour une émission plus musicale cette fois. D'ici là, que le mois vous soit bon. À très bientôt.